Mohamed Harkoun, aujourd'hui encore, il incombe à qui veut comprendre comment s'est élaborée la culture européenne de repenser à ce Moyen-Âge méconnu, et cela de manière sereine, loin des idéalisations comme des occultations.
Justement, en même temps qu'on en parle trop sur le ton idéologique, même du côté de l'Ankara, je le reconnais, il faut dire que cette page d'histoire est ignorée en même temps. Et elle est ignorée par les universitaires eux-mêmes, les chercheurs eux-mêmes. Elle est ignorée dans l'organisation des programmes dans les universités. Je veux dire par là que si vous faites le tour de tous les départements de philosophie en France, dans toutes les universités de France, vous trouverez très très peu de départements où l'on évoque justement cette page d'histoire de la pensée qui appartient à l'ensemble du monde méditerranéen et par le biais du monde méditerranéen appartient bien sûr à l'Europe. Car la pensée européenne est sortie de la réalité méditerranéenne, des grands axes de la pensée que je qualifie de méditerranéenne, puisque ces axes, ce sont des axes qu'on nous a suffisamment serinés, gréco-latin d'un côté, et le monothéisme véhiculé pour l'Europe par le christianisme de l'autre côté. Seulement le christianisme s'est tellement détaché de ses origines proche-orientales qu'il est devenu un fait religieux purement européen et purement occidental pour mieux se détacher justement d'autres religions qui, elles, seraient restées exclusivement orientales. Vous voyez, chaque fois qu'on approche ce problème, il surgit immédiatement toutes sortes de déformations qui ont duré à travers l'histoire. Parce que ces déformations et ces polémiques ont déjà existé au Moyen-Âge. Et l'équilibrage entre les pensées juives, chrétiennes et musulmanes se sont déjà affirmés au Moyen-Âge très fortement sur le plan de la théologie en particulier. On peut donner deux dates butoirs, limites si vous voulez. C'est 632 qui est la mort du prophète et le début par conséquent de ce que j'appelle le fait islamique. Mm-hmm. Le fait islamique en tant que fait historique et en tant que fait aussi étatique impérial. C'est le commencement, donc le départ, et puis 1198, c'est la date de mort du grand philosophe Averroès. Entre ces deux dates, il s'est passé énormément d'événements intellectuels. Eh bien, à partir du moment où les Arabes entrent en scène, c'est fini, c'est fermé. On ferme la porte et on fait un grand saut vers Descartes, Spinoza, Leibniz. De temps en temps, vous trouvez des curieux, des égarés qui vont aller regarder ce qui se passe dans cette période que nous évoquons. Et un autre phénomène aussi que je voudrais souligner, c'est le rôle de Maïmonide. Maïmonide a voulu guider les esprits égarés, comme il disait, mais il n'y a pas réussi. C'est lui aussi un grand philosophe, penseur juif, contemporain d'Averroès.
Qui s'exprimait en arabe.
Qui s'exprimait en arabe, qui a écrit son œuvre en arabe et qui a été très vite traduite en hébreu. Et pour cause, parce que la communauté juive, évidemment, a reposé sur sa pensée et repose encore jusqu'à nos jours sur sa pensée. Bien, voilà une page d'histoire qui n'est pas encore correctement écrite. Ce sont les trois grandes figures qui sont absolument interconnectées. On ne peut pas les séparer, c'est Averroès, Maïmonide et saint Thomas d'Aquin. Voilà trois figures inséparables et que nous avons tout intérêt à aller réinterroger. Non pas du tout pour ressusciter des polémiques médiévales, loin de là, mais au contraire pour être à la hauteur de ces esprits, parce que c'était de très grands esprits qui s'élevaient à des problèmes qui, à mon sens, ne sont pas dépassés. Ce sont des problèmes ouverts et qu'il est important de retrouver aujourd'hui, par exemple, sur les articulations intellectuelles qu'il pourrait y avoir entre la pensée théologique et la pensée philosophique. Car il y a eu un événement en Europe à partir de ce qu'on appelle la philosophie moderne. C'est la marginalisation de la pensée théologique par la philosophie. La philosophie occupant le champ officiel de la pensée intellectuelle.
En reléguant la théologie.
Et reléguant la théologie au séminaire pour former les moines, ou aux facultés de théologie musulmane pour former des imams, comme on dit aujourd'hui, ou pour former des rabbins chez les juifs, etc. Et il y a là un événement intellectuel dont on n'a pas pris la mesure, et dont on n'a pas mesuré les conséquences sur notre pensée aujourd'hui et sur notre incapacité aujourd'hui à poser correctement tous les problèmes des relations entre ces trois pensées, ces trois grandes traditions de pensée, ces trois grandes directions de la culture, que sont la direction juive, la direction chrétienne et la direction musulmane, que je ne sépare pas. Elles sont absolument interconnectées à beaucoup de niveaux et tout au long d'une très longue histoire, interconnectées soit par la polémique, soit par le travail intellectuel sérieux, comme ces grands penseurs que je viens d'évoquer, et ils ne sont pas les seuls. Au lieu de faire ce travail, encore une fois, extrêmement excitant et de grande actualité pour aujourd'hui, pour nos jeunes, en France, c'est interdit. Vous ne pourrez pas avoir un département de théologie dans une université que l'on appelle laïque.
Même la publication, il y a quelques années, de l'encyclopédie des religions, qui voulait justement aborder le phénomène religieux d'une manière scientifique, en tout cas rationnelle, a suscité de nombreuses polémiques.
Mais bien sûr, voilà encore des problèmes considérables qui sont liés à cette question du rôle, justement, de la philosophie, de la théologie pendant cette période que l'on appelle le Moyen-Âge et qui, en islam, s'appelle la période classique et non pas le Moyen-Âge. Et il y a un mot que je voudrais introduire, justement, il y a un maître, un grand maître que je respecte beaucoup, qui s'appelle David Goldheim. C'est un professeur d'histoire, justement, du monde méditerranéen, qui a écrit de gros volumes sur l'histoire de la Méditerranée à partir de documents juifs conservés dans ce qu'on appelle la Gemisa au Caire. Voilà une œuvre qui a peu influencé les historiens eux-mêmes. Elle est écrite en anglais, les Français la connaissent peu, et elle reste presque lettre morte. Mais plus que ça, un homme de la stature de Brodel n'a pas tellement influencé même les francophones sur ce thème de la Méditerranée. Pourtant, je n'ai pas besoin de dire combien Brodel a été grand pour tous les historiens et pas seulement pour la leçon sur la Méditerranée. Voilà donc un certain nombre de réflexions. Vous voyez, j'ai connecté intentionnellement les problèmes qui préoccupent l'historien en tant qu'historien et qui ont des retentissements flagrants et souvent très pénibles dans notre vie quotidienne aujourd'hui.